La Voix de la librairie Québec. Mon nom est Catherine Doré et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous mensuel de mars. Si vous nous écoutez sur les ondes de CKIA, l'émission est diffusée le mercredi à 15h30 aux deux semaines. Elle est enregistrée le premier lundi du mois à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec et diffusée en direct sur Radio Fiat Lux, qui est le site web sur lequel vous pouvez trouver aussi toutes nos émissions. Ce mois-ci, nous avons plusieurs invités et nous parlerons du culte de la jeunesse, de santé mentale et de vulnérabilité sociale. Nous nous interrogerons sur la mission et la fonction du Comité international olympique et il sera question aussi de poésie. Alors, pause musicale pour débuter et pour se mettre dans l'ambiance. Une chanson de Léo Ferré, interprétée par Catherine Sauvage, « La vie ».
Une vie fou, mais quand c'est la sienne, on y tient. Pardi, y'a que ça qui compte. Dis la vie, t'es mal foutu, t'as l'air d'une fille perdue. T'es fagotée comme une sans foi ni loi, qui croit en Dieu, c'est quoi, et qui se fout tout d'ailleurs, mais pas les coups au cœur. Le cœur, c'est une vieille peau, une peau de tambour, ta ratata. Ma sœur, c'est lui qui compte. Dis le cœur, t'es mal planqué, je m'en fous, je suis pas gaucher. Tu comptes les coups pour finir où, pampant, dans un placard peinard où y'a peau de balle, les crame et pas d'argent. L'argent, c'est une vieille peau, une peau de chagrin qui fait dindi. Tiens, tiens, on fait ses comptes. Dis l'argent, t'es rien nickel dans ton papier, ficelle. Quand t'es pas là, nous on est là. Copain, sans argent, non, n'est rien, mais rien du tout, c'est tout. T'as bien le bonjour de l'amour, l'amour. C'est une vieille peau, une peau de bison ou bien tintin. L'amour, ça fait des comptes. Dis l'amour, t'es tout ou rien, mais quand t'es tout, c'est fou. Et quand t'es rien, alors t'es rien du tout. Faut mettre les bouts sur tout, et puis s'en foutre mes petits. Quand on est toute la vie, la vie. Une foutue peau, mais comme c'est la mienne, moi j'y tiens. Mardi, pour moi ça compte. Dis la vie, sois bien foutu, mais l'air d'une môme cossue. Mais ton beau boule des fois qu'on tourne la boule, la suie qui compte les coups, et qui te croit d'un coup. D'ailleurs, nous on s'en fout.
Nous avons tous assisté il y a quelques semaines aux prouesses des athlètes olympiques à Sotchi. Jeux qui se sont par ailleurs déroulés dans un accord parfait. Enfin, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Mais il reste que les Jeux olympiques, pour la plupart des gens, c'est l'occasion de s'extasier devant de jeunes hommes et de jeunes femmes pétants de vie et de santé qui réalisent des prouesses absolument formidables. On le sait, l'époque contemporaine est fascinée par le corps et la jeunesse. Alors, je suis en compagnie de Dominique. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Dites-moi, Dominique, d'où vient donc cette obsession qu'on a du corps parfait?
Comme tu l'as si bien remarqué, c'est un fait remarquable que de toute l'histoire écrite de ce qu'on peut appeler la civilisation occidentale, nous n'avons jamais autant parlé de l'importance de la jeunesse. Pardon.
Oui, allez-y.
Nous n'avons jamais autant porté d'importance à la jeunesse, à la bonne santé du corps et à son apparence jeune et saine. J'aimerais proposer que deux phénomènes sont à la racine de ce phénomène que je viens de noter. Mm-hmm. D'une part, l'espérance d'une vie après la mort promulguée par la religion. Or, le recul de la religiosité et de la spiritualité dans les sociétés contemporaines ont laissé un vide. Un vide qui ensuite a été comblé par un autre phénomène, le projet scientifique de la modernité cherchant à maîtriser la nature afin de soulager la condition humaine, ce qui a entraîné un projet de guérir la mort comme une maladie.
OK, c'est ça. C'est qu'on s'est mis à considérer que la mort était une maladie.
Voilà. Et puis, dans le quotidien, ce paradigme scientifique s'est incarné par un désir de préserver la jeunesse, d'augmenter la longévité et de repousser la mort le plus possible. À cet effet, tous les moyens sont bons. Entraînement physique, régime alimentaire, même si ce n'est que les apparences, chirurgie esthétique, maquillage, bronzage, et en est de nouvelles autorités de notre époque, médecins, nutritionnistes et entraîneurs, qui prédominent sur l'espace public.
Est-ce que vous diriez qu'on a davantage peur de la mort qu'avant?
C'est une thèse qui se défend, mais en fait, c'est pas nécessairement la façon qu'on... c'est pas nécessairement la peur de la mort qui est le problème, c'est la façon qu'on gère cette peur.
Okay.
La thèse que je défends, c'est que la pourriture du corps, c'est-à-dire la dégénérescence du corps, fait mourir l'espérance d'une vie après la mort. Et puis, incapable d'affronter l'angoisse, qui remplace l'espérance, ils empêchent cette pourriture, ils la dissimulent, ils vont au gymnase, ils se font injecter du botox, ils se coupent les poils, etc.
En fait, c'est contre les signes du vieillissement qu'on se bat, finalement. C'est pas tellement contre le fait de mourir comme le fait de voir qu'on s'en va vers notre achèvement.
Exactement, c'est ce qui préfigure la mort. À cet effet, j'aimerais citer un passage de Paul Ricoeur du rapport entre le poil et la mort. Je cite. Le poil est, c'est-à-dire se donne pour, la fine pointe de l'ambiguïté. Quand il tombe, il chute du corps propre dans la chose. Il préfigure ainsi le cadavre que je deviens, si bien que quand il pousse, c'est mon être pour la mort qui grandit en moi. L'être pour la mort, fin de la citation, l'être pour la mort, mais qu'est-ce? Eh bien, c'est très simple, c'est l'inverse de l'espérance. C'est dire que notre existence est un mouvement vers la mort, que la mort est son seul horizon. C'est ce que la science et la religion ont parfois voulu cacher, avec l'espoir d'un horizon éternel, par opposition à un horizon fini, c'est-à-dire l'espoir d'une vie après la mort. Ce que je propose, c'est que la première démarche de l'existentialisme est donc de faire reconnaître à l'humain qu'il est pleinement responsable. Le fait que l'on va mourir nous force à nous ouvrir au monde. Nous devons être conscients que nous allons mourir et non le nier et non être en déni par rapport à ça et considérer que nous sommes un projet et ne pas faire de ce projet une vaine tentative d'en éviter l'inévitable fin.
Mais est-ce que c'est pas pessimiste comme vue, ça?
En fait, c'est pessimiste si on est lâche, mais ça demande un petit peu d'optimisme pour prendre en main sa vie et considérer que nous sommes les seuls responsables de nous-mêmes. Ça demande que l'homme soit responsable, mais aussi que l'homme soit désespoir et qu'il ne cherche pas espoir dans une transcendance divine ou dans une panacée scientifique.
Oui. Mais donc accepter notre finitude et la mort, ça veut dire cesser de combattre aussi les signes de vieillissement.
Exactement. En fait, la question, c'est aussi être capable de les accepter.
Oui.
Et non pas de simplement les... On peut les dissimuler pour des questions esthétiques, mais il ne faut pas en faire le premier projet de sa vie.
Mais c'est probablement relié le fait qu'on associe une esthétique de la jeunesse c'est-à-dire l'inverse, qu'on associe les signes de vieillissement à la laideur ou à la mort. Il y a un lien, là.
Exactement. Puis, en fait, ça aussi, ça s'incarne dans une distinction entre l'homme et la femme.
Oui, ça, c'est intéressant parce que votre citation, d'ailleurs, sur le poil, qui est très, très intéressante, mais c'est comme si les femmes qui combattaient davantage le poil que les hommes supportaient moins bien les signes de vieillissement. Je ne sais pas si on peut faire une différence. Je trouve ça osé comme...
C'est un fait notable que la vieillesse de l'homme est moins stigmatisée que celle de la femme. Vestige d'un ancien culte de la sagesse où la vieillesse de l'homme signifiait l'expérience et la sagesse et qui était respectée dans la société. Ces hommes ne s'injectent pas de botox, ils vont plutôt au gymnase, généralement, bien que de plus en plus on voit que des hommes vont s'injecter du botox et vont se pavaner. Donc, puisque la pourriture du corps se manifeste chez la femme surtout dans la perte de la beauté juvénile, elle s'incarne en l'homme par la perte de la vigueur et de la force de la jeunesse.
Mm-hmm.
Et ces hommes s'entraînent afin de ne pas se voir inévitablement faiblir, ce qui préfigure leur inévitable mort.
Est-ce que ça voudrait dire que, voyant approcher la quarantaine, si les femmes vont vers la chirurgie, les hommes vont vers les gyms?
En général. mais c'est surtout c'est un mouvement qui débute très tôt, parce qu'à partir d'un certain moment, les gens deviennent désespoir, c'est-à-dire qu'ils voient le mouvement inévitable de leur corps qui s'en va vers la déchéance et puis qu'abandonnent. C'est un mouvement qui commence assez jeune, déjà dès la vingtaine.
Oui.
Le premier cheveu blanc, les premiers maux de dos, etc., vont venir préfigurer la langue descente qui commence. Là.
Oui.
C'est plus une montée, c'est une descente.
Oui.
Mais par exemple, c'est pas entièrement négatif de considérer la finitude humaine. Et puis c'est ce que propose Léon Casse,
oui.
C'est-à-dire
on peut voir la mort comme un bienfait?
Oui, mais en fait, c'est pas la mort en elle-même qui serait un bienfait, mais ça serait plutôt la mortalité qui serait un bienfait, donc la finitude. La mort, en effet, on peut pleurer la mort déchire, la mort fait mal, mais la finitude de l'homme, c'est-à-dire le fait que notre vie ait une fin, serait une vertu. L'une des vertus qu'il propose, c'est le sérieux et l'aspiration que nous attribuons à notre vie, sachant qu'elle est finie. À cet effet, les dieux grecs jalousent les mortels, blasés par leur immortalité, limités à répéter sans cesse les mêmes plaisirs frivoles rapidement superficiels. Ils jalousent en spectateurs les mortels qui ont de la profondeur, des aspirations, et qui vivent passionnément de ce qu'il aurait attribué comme durée de vie, qui, à défaut de pouvoir ajouter des années à leur vie, ajoutent de la vie à leurs années.
Est-ce à dire que notre finitude fait qu'on donne plus de valeur à chaque moment de notre vie?
En quelque sorte, lorsqu'on en est conscient. Mais le problème, c'est que la question, c'est pas nécessairement le rejet. La question, c'est le rejet ou le déni de la finitude, mais c'est que certains vont passer l'entièreté de leur vie à être en négation de leur finitude, vont passer l'entièreté de leur vie à vouloir éviter l'inévitable, c'est-à-dire à vouloir éviter la mort, à être dans le déni face à la mort, à se dire non, ça va pas arriver, je vais vivre éternellement, je vais, etc.
Est-ce que ça pourrait aussi expliquer l'espèce de superficialité des gens qui vont beaucoup vers les divertissements faciles, vers le plaisir, qui ne prennent pas vraiment les choses au sérieux? Est-ce qu'on pourrait faire un lien, là?
Le lien serait possible pour être envisagé du côté du sérieux qu'on rapporte à la vie. C'est certain que lorsqu'on est conscient que la vie est brève et puis qu'elle a un début et une fin, on peut moins être porté au plaisir frivole et superficiel, puis on peut s'attarder un peu plus à l'aspiration, à la passion, un peu plus sérieux et pensé. Mais tout ça, ça rapporte au sens que chacun accorde à leurs actions.
Oui.
Certains vont accorder beaucoup de sens à des choses que certains d'autres vont juger superficielles et inversement.
Oui. Ah, il y a Adrien qui est avec nous, qui aimerait peut-être poser une question. Oui, Adrien?
En fait, c'est plutôt rappeler une parole de La Rochefoucauld
qui
disait que deux choses ne peuvent pas être envisagées. C'est le soleil et la mort.
Oh! Ne peuvent pas être envisagées comme concept, parce que c'est trop grand.
Non, pas comme concept, mais ils ne peuvent pas être envisagés. Le soleil, on ne peut pas l'envisager à cause de sa force.
Ah, ok, d'accord, oui.
Et la mort aussi.
Oui.
Mais la mort, c'est dans un sens symbolique.
Oui, tout à fait.
Alors que dans le soleil, c'est dans le sens physique.
Oui.
Mais au fond, le phénomène auquel on s'attaque, c'est réellement, comme j'ai dit un peu, c'est le rejet ou le déni de la finitude humaine, mais pas nécessairement de la mort en elle-même, plutôt de la finitude. Donc, son être pour la mort, donc la mort pour horizon, qui encourage à préserver l'espérance en empêchant la dégénérescence de son corps ou en la dissimulant. Au final, la question est dès lors plus une question, et pas vraiment d'éviter la mort, plutôt que de perdre sa vie dans le déni de son inévitabilité, gaspillant leur vie, dans le fond, à ne pas vouloir se la voir finir.
Ouais. En conclusion, on pourrait dire que cette obsession de conserver les corps jeunes, c'est une manière de renier l'existence de la finitude.
En fait, ça serait pervertir ce qu'est la vie humaine, parce que la vie humaine, c'est une vie finie, et une vie qui serait immortelle ne serait pas humaine.
C'est ce qu'on a toujours cru, en tout cas. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Alors, on va faire une pause musicale. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour s'en aller vers la poésie avec tout ce qu'on a entendu là. On va écouter la chanson de Léo Ferré, La poésie.
Du savon qui lave les péchés capitaux, un stylo bi qui grave le goût d'un apéro, un soutien-gorge à pile qui ne s'allume qu'aux beaux yeux, un dentifrice habile à blanchir les aveux, un buvard facétieux qui sèche les chagrins, un œil pour lire à deux quand le jour s'est éteint, un violon capital voilé de chambertin à faire sonner le mal plus fort que le tocsin. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir.
tu demanderas la poésie, on t'ouvrira, même si elle n'est pas là, d'ailleurs elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou ou bien chez des voyous habillés de chagrin qui vont par les chemins chercher leur bon ami. La poésie, j'ai des bas pour boiteuse à faire boiter l'ennui, et des parfums de gueuse à remplir tout Paris, des pendules à marquer le temps d'un beau silence, des lassos à lasser les garces de la chance, des machines à souffler le verre de l'espérance, et des vignes à chanter les messes de la démence, des oiseaux transistors qui chantent sur la neige, garantie plaqué or, plaqué par le solfège. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, on t'ouvrira, même si elle n'est pas là, d'ailleurs elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou qui se prend pour un hibou à regarder la nuit habillé de souris comme sa bonne amie.
C'était donc la poésie de Léo Ferré et on est en compagnie de Edmé Étienne. Bonjour Edmé Étienne.
Bonjour Catherine.
Tu viens nous parler du mois de la poésie qui est le mois de mars à Québec.
Oui, entre autres, oui.
Et de spectacles que toi tu vas faire dans le cadre de cette programmation.
Oui, c'est ça qui s'appelle Un autre tas de marde sur le tapis rouge, qui est un récital de poésie dans le fond, solo que...
Il y a quelqu'un que ça fait rire derrière le bar, là.
C'est ça.
Oui, c'est une poésie qui est très particulière, qui vraiment fait partie vraiment de ton univers à toi, qui est un univers de punk.
Oui, effectivement, un univers, en tout cas, ouais, marqué par la culture punk, là, profondément. Là. Mais c'est ça, dans le fond, le récital comme tel, ça va être les 45, 46 et quelques, là, je sais pas trop, poèmes. De mon nouveau livre de poésie, nouveau okay. florilège de poésie et de dessin, okay. Qui va s'appeler Amour cardiaque, viandes hachées et autres tendresses. Il est terminé de rédiger, là. Il manque la mise au propre, puis du reste, j'attends aussi pour le financement là, bientôt. Là.
C'est ton cinquième?
C'est mon
sixième recueil de poésie?
Sixième florilège de poésie et de dessin. Ouais.
Oui, parce que tu dessines aussi. Oui,
effectivement. C'est toujours poésie et dessin, mes recueils, mes livres. sauf un qui s'appelle Ballonné spirituel à crédit, dans lequel je n'ai publié qu'environ 4 affiches liées à mon travail de poète. Là.
Okay.
Sauf que, dans le fond, okay. Puis qui est entièrement en poésie, là, c'est ça. Avec extrêmement peu de dessin, contrairement aux autres.
Et là, ton nouveau recueil, tu vas nous présenter ça cette semaine, je pense?
Oui, ça, jeudi prochain, 20h, à l'Agité,
okay.
Café Bar l'Agité.
Donc, pour les auditeurs de CKIA, c'est demain, parce qu'on va être diffusé mercredi à CKIA.
Oui, OK, excellent. Oui, donc, ben c'est sur un autre de merde sur le tapis rouge. C'était aussi pour parler, dans le fond. Ben c'est un fun que je me suis permis pour faire ce récital-là en solo, dans le fond de chier mon tas sur un tapis rouge, dans le fond...
Ça fait référence aux Oscars de Hollywood?
Oui, à peu près ça, ouais, c'est ça, ça fait référence, dans le fond, à la pop culture, à la culture de mass-média, à la culture, dans le fond, d'aliénation, d'aliénation globale là, dans le fond dans laquelle on baigne là, c'est une espèce de marasme dans le fond souvent en spiritualité on a parlé de l'esprit du siècle ou de l'esprit du monde, c'est un peu ça, c'est une espèce d'inconscient dans le fond qui fait que tout est banal, tout est ordinaire, que tout est dans le fond que un esprit du monde, dans le fond, qui s'opposerait à quelque chose de plus passionné, de plus poétique, de plus utopique, c'est-à-dire qui investit les choses banales du quotidien avec du sens, avec de la profondeur, avec de l'amour, avec de la rage, du rêve, de la révolte.
Est-ce qu'on peut en entendre un de tes poèmes? Parce que c'est le fun d'en parler, mais souvent la poésie, on peut essayer d'expliquer longuement comment c'est, mais ce qui est le plus clair encore, c'est de l'entendre.
Voilà, ben garde, on va y aller avec deux poèmes là, que dans le fond qui sont des courts poèmes tirés de mon dernier recueil de poésie et dessin. Alors voilà.
On t'écoute.
On y va avec l'abattoir intime. Ça sent la vie lente et douloureuse, pétrie par le steak et les procès infantiles. J'ai crissé du gaz et des boules de cristal anal sur l'oracle qui crame dans Shed. Notre conscience fragile et l'extrême onction du Christ rossé pendant l'accouchement. Je suis devenu une passion séquestrée pour fucker le chien en phase terminale par amour de la vie. On m'appelle auprès du schisme et des décharges électriques thérapeutiques. La poésie d'une maladie mentale qui s'est faite brûler à l'acide dans les recoins noirs du crime banal et de la chambre d'isolement. Il nous incombe de sévir contre le néant. Nous sommes l'hospice d'un noble Éden déviergé.
Ça, c'était le premier. Tu nous en fais un deuxième tout de suite?
Je vous en fais un deuxième tout de suite.
Très court.
Petit dernier, très court. Ici, la contravention du sans-abri dédiée aux pauvres. La facture va être salée. Pour le fautif qui couchait sur un banc de parc, on n'a plus les criminels qu'on avait.
Merci, Edmé. C'est une poésie de dénonciation?
Pas vraiment, non. La dénonciation, je sais pas, ça peut faire partie de ça, mais c'est pas le principal, là. À vrai dire, le principal de ma poésie se retrouve autour de certains axes qui se retrouvent à être notamment la culture punk, l'espèce d'utopie anarchiste ainsi que les conséquences concrètes que ça doit avoir dans une vie humaine incarnée dans le fond dans la chair dans le fond après ça je pourrais dire un peu surtout principalement aussi la foi en Jésus-Christ la foi dans le fond en Dieu Dieu sans E Dieu sous toutes ses formes dans le fond qui n'est qu'une ou qu'un dans l'amour.
Il y a d'autres événements qui s'en viennent aussi en mars, en avril, dans le cadre, soit dans le cadre du mois de la poésie ou.
Oui, dans le fond, là, attendez-moi un petit peu.
Ouais.
Moi, dans le fond, je voulais plugger un événement que je trouve qui a l'air vraiment cool.
Dans le cadre de la programmation du mois de la poésie,
ça,
oui.
D'une personne que je connais, dans le fond, c'est ça. Je pourrais vous parler, dans le fond, de Stéphanie Lapointe et de son kiosque de dégustation de poésie.
Oh.
Dans le fond, qui va être du 20 mars au 23 mars.
Okay.
Au IGA des Chênes, 255 chemin Sainte-Foy.
Oui.
Dans le fond, à partir de 13h chaque jour, entre le 20 mars et le 23 mars. Sinon, moi, dans le fond, il y a là aussi une autre soirée que mon récital du 6 mars, qui s'adonne à être une scène ouverte sur la thématique de la poésie engagée, organisée par le Printemps des Poètes au Café Babylone, le 28 mars, 20h.
C'est une collaboration, ça, à ce moment-là?
Là, dans le fond, ça va être différentes poétesses et poètes qui vont s'être inscrits, dans le fond, à cette soirée-là, par le biais du Printemps des Poètes qui organise la soirée, dans le fond, là, qui vont lire. Là, moi, dans le fond, j'ai été invité, puis je trouvais ça intéressant.
Donc, c'est un collectif de poètes, hommes et femmes, qui vont présenter leur travail.
Ce n'est pas un collectif, non. C'est, dans le fond, c'est différents poétesses et poètes à titre de poètes ou d'individus, mettons. Là.
D'accord.
Ils n'ont pas quelque chose de... Il n'y a pas de vision commune. C'est, dans le fond, c'est une scène ouverte sur la thématique de la poésie engagée.
OK, parce qu'on disait, il nous reste peut-être une minute, tu me disais tout à l'heure que c'était pas une poésie de la dénonciation, mais c'est une poésie engagée.
Dénonciation, c'est que, je veux dire, la poésie engagée, moi, ça fait partie de ma vie, sauf que c'est pas... La poésie, elle a plusieurs visages. Le engagé, le dénonciateur, je sais pas si c'est ça le principal. Ça en fait partie. J'ai quelque chose à dire là-dessus à propos de ça en tant qu'anarchiste chrétien, en tant que, dans le fond, poète qui rêve d'un monde meilleur. Mais en tout cas, tu sais, je pense pas que... Elle peut pas se réduire à ces seuls aspects-là.
Non, c'est ça, c'est plus large que ça.
C'est ça, c'est un aspect entre autres.
C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Edmé-Étienne. On invite les gens à aller voir ton spectacle, donc à l'Agité, jeudi cette semaine.
Oui.
Alors, on fait une pause musicale pour permettre à CKIA de passer donc les indicatifs et les publicités. Et pendant ce temps-là, nous, ceux qui sont sur Radio Fiat Lux, ils vont écouter une pièce qui va introduire notre prochain sujet. Et ça s'appelle « La drop sociale » de Jean Leloup. Le 20 février dernier, j'ai rencontré Marcelo Otero, qui était de passage à l'Université Laval pour donner une conférence. Il était invité par la revue scientifique Aspects sociologiques, qui est une revue étudiante du deuxième et troisième cycle du département de sociologie de l'Université Laval. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette revue et tous ses articles sur le web. Marcelo Otero est professeur à l'UQAM au département de sociologie. Il est aussi chercheur au Centre d'histoire des populations sociales et au collectif sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale. Il s'intéresse donc, comme vous pouvez le comprendre, à l'exclusion sociale, mais aussi à la marginalité, à la santé mentale et à ce qu'on pourrait appeler les lignes de faille de la socialité contemporaine. Il a eu la gentillesse de m'accorder cet entretien.
La compréhension de l'univers des problèmes sociaux contemporains gagnerait à accorder une attention particulière aux transformations sociétales larges, transversales et liantes, plutôt que d'insister sur l'analyse classique des caractéristiques intrinsèques de populations vulnérables, dérangeantes ou dangereuses qui sont assistées, gérées ou réprimées. Alors, c'est tiré d'un article de M. Marcelo Otero qui est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Otero.
Bonsoir, madame.
Est-ce que vous pourriez commencer par commenter l'extrait que je viens de lire?
Bien, en fait, l'idée de ces livres-là et de cet extrait-là, c'est justement de montrer qu'il n'y a pas de cohérence forcément dans ce qu'on appelle des catégories de personnes problématiques. Autrement dit, les toxicomanes ne se ressemblent pas tous, les prostituées ne se ressemblent pas tous, les itinérants ne se ressemblent pas tous, les fous ne se ressemblent pas tous. C'est des univers qui sont très complexes et que parfois ont plus de liens avec la vie ordinaire de nous tous qu'on ne les pense. Donc une façon de mieux comprendre ces problèmes-là, c'est de considérer pas seulement ce qui pose problème, mais ce qui ne pose pas. Pourquoi ? Parce qu'une dimension chez quelqu'un, par exemple le fait de prendre telle ou telle drogue, n'occupe pas toute la vie de cette personne-là. Donc parfois, ce qu'on fait, c'est d'étendre ou de faire, d'élargir cette dimension-là sur tout le reste de sa vie et sa personnalité, qui ne sont pas forcément concernés. Si je continue avec l'exemple de la toxicomanie, vous allez voir qu'il y a des pharmaciens, par exemple, qui sont des morphinomanes, qui prennent des médicaments de leur propre pharmacie, mais qui mènent une vie professionnelle tout à fait correcte, qui ont une famille, qui sont respectés, et que parfois se font prendre. Oui. Alors on doit payer une amende, et cette personne-là est un toxicomane. Est-ce que c'est l'idée qu'on s'est fait de toxicomane? Non. Pour la prostitution, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement des filles absolument démunies, battues, etc. C'est un univers qui est bien plus complexe. Vous avez même des femmes d'affaires, parfois, qui exercent ce métier-là, parce que c'est aussi un métier. Et donc, on gagnerait justement à voir ces phénomènes-là autrement, en prenant en compte les caractéristiques des sociétés contemporaines.
Est-ce que ça veut dire qu'on gagnerait à envisager ces personnes-là du point de vue de ce qui va bien au lieu de les envisager du point de vue de ce qui ne va pas bien?
Mais d'abord, le fait de les considérer de manière plus globale, ça désamorce toute une série de réflexes de stigmatisation. Vous n'êtes que ce qui pose problème. Et parfois, comme je vous dis, il y a des prostituées qui sont de très bonnes mères, des meilleures mères que des gens qui sont des femmes d'affaires. Donc, alors pourquoi ne pas équilibrer un petit peu les choses? Et c'est vrai, il y a des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, mais qui se débrouillent bien dans leur famille. Donc, est-ce qu'on doit tout ternir à cause d'une dimension qui pose problème? Et ça n'aide pas la personne, et ça nous rend, ces personnes-là, étrangers à nous. Et ces personnes-là vivent dans la même société que nous, sont soumises aux mêmes exigences. On partage d'une façon ou d'une autre à peu près les mêmes valeurs, on est soumis aux mêmes normes de conformité, donc on ne peut pas, disons, les encercler ou les enfermer dans un groupe particulier, parce qu'empiriquement, ce n'est pas vrai. Ces gens-là ne sont pas homogènes, c'est bien plus varié que ça, et tant mieux que ce soit comme ça.
La non-conformité est quelque chose qui est dérangeante pour les sociétés, historiquement, depuis toujours, et dans tous les types de sociétés aussi. Qu'est-ce qui caractérise notre société moderne dans son comportement face à la non-conformité?
Mais en général, aujourd'hui, on vit dans une société d'individualisme de masse. C'est-à-dire, tout le monde, plus que jamais dans l'histoire, est considéré un individu. Un enfant, un homme, une femme, quelqu'un qui appartient à une minorité ethnique est avant tout un individu. Après, on est d'autres choses, mais on est avant tout un individu. Ça veut dire qu'un individu doit se suffire à lui-même, doit être responsable de ce qu'il fait, autant de ce qu'il fait bien comme ce qu'il fait mal. Quand ça va bien, c'est très bien. Quand ça va mal, je porte le poids de la responsabilité. Et ça, aujourd'hui, c'est exacerbé. Donc la responsabilité individuelle s'est exacerbée. Et la non-conformité, justement, il faut la comprendre à la lumière de la conformité. Qu'est-ce qu'être un individu moderne aujourd'hui? Tout ce qui ne l'est pas, c'est une non-conformité. Donc vous pouvez avoir beaucoup de défauts, mais vous êtes un individu, pour vous débrouiller en individu, vous allez être en quelque sorte respecté. Toutes les autres choses peuvent être plus ou moins accommodées. Mais la grande partition entre conformité et non-conformité, c'est est-ce que vous êtes un individu autonome, responsable, capable de prendre des initiatives, de vous débrouiller vous seul. Bon, là, ça fait de vous un vrai citoyen.
L'individu, c'est une notion qui est née avec la modernité, avec les modernes. Et c'est donc devenu la supra-valeur aujourd'hui. Être un individu, réussir à être vraiment un individu.
Et en fait, il y a toujours un piège dans tout ça, parce qu'on ne peut qu'être un individu qu'en société. C'est-à-dire, il n'y a pas d'individu tout seul, ça n'existe pas. L'individu est un produit social. Et ça, des sociologues très vieux, très classiques, comme Durkheim l'avait vu, c'est-à-dire la valeur, disait-il, des sociétés modernes, c'est la valeur qu'on accorde à l'individu, mais l'individu n'est possible que s'il n'existe pas une société qui permet de produire des supports pour un individu qui puisse se considérer comme tel. C'est-à-dire, pour être un individu, ça prend une société très complexe. Et il n'y a pas d'individu tout seul, il n'y a pas d'individu hors société.
Oui.
Donc, c'est une production sociale à part entière.
D'ailleurs, quand on parle de normativité, on parle de capacité d'adaptation aussi, au départ.
Tout à fait. Il faudrait qu'il n'y ait pas de société sans normativité. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue sans grammaire. La grammaire est à la fois une contrainte, mais à la fois c'est une possibilité. Si on peut communiquer, c'est parce que la grammaire met les mots dans tel ordre que ça fait du sens. Sinon, on ne pourrait pas communiquer. Donc, la normativité fait en sorte qu'il y ait une société. Mais la normativité n'est pas toute bonne. Hein? C'est-à-dire, il y a des aspects qui sont contraignants. C'est-à-dire, par exemple, il faut être comme ceci et pas comme cela. Il suffit de penser à la place des femmes avant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas grand monde qui était contre le fait que les femmes ne puissent pas voter.
Oui.
Ce qui est absolument scandaleux.
Il faut le dire.
Mais avant, il n'y était pas.
Oui, oui.
On vivait très bien avec ça. Ah, et aujourd'hui, on vit très bien avec des choses qui sont scandaleuses, avec lesquelles on s'accommode très bien. Mmh. Autrement dit, il faut un ordre social, une manière de réguler le comportement, de vivre ensemble, mais il ne faut pas se priver de les critiquer constamment parce qu'il y a énormément d'iniquités, des inégalités qu'il faut contester, qu'il faut critiquer. Il y a un peu l'histoire des femmes ou l'histoire des Noirs ou l'histoire des homosexuels, ça nous montre un petit peu les dures batailles qui ont été livrées contre l'irrationalité de la normativité. Parce que la normativité est irrationnelle comme la culture. Elle est arbitraire.
Alors, pour commencer à pouvoir peut-être critiquer cette norme, on va essayer de définir quel est l'individu bien adapté, contemporain aujourd'hui. Pouvez-vous nous en faire un portrait?
Oui, en fait, ça, on l'apprend depuis qu'on est tout petit. Avant, les enfants étaient plus longtemps dans les familles. Aujourd'hui, très vite, ils vont dans des CPE, dans des structures de la petite enfance, où ils vont apprendre aux enfants qu'ils sont des individus.
Oui.
Il y en a même qui ont des petits agendas, qui ont des emplois de temps. Et donc, ils sont socialisés en tant qu'individus. Ils s'organisent tout seuls. Un enfant autonome, c'est un vrai enfant. Qui fait ses devoirs tout seul, qui place sa tuque, ses gants comme il faut qu'il les passe. Donc, un enfant autosuffisant, c'est qu'il va être un individu adapté. Donc, il faut apprendre ça, pas seulement en soi, c'est parce qu'aujourd'hui, on existe socialement avant tout en parlant à son propre nom. Ce n'est pas ma famille qui va me donner mon prestige, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas les autres, c'est moi.
Oui.
L'individu est plus important que tout le reste. On peut vivre seul, il n'a pas avoir de famille, mais si on s'affirme, si on est autosuffisant, etc., et là j'existe socialement. Si je suis dépendant de tout le reste, même si j'ai une famille, même si je n'ai pas de métier, socialement je n'existe pas.
Donc pour acquérir cette autonomie et devenir un individu, c'est l'argent.
Pas forcément. C'est une qualité sociétale bien plus large. C'est-à-dire, dans une société capitaliste, il faut avoir un salaire, parce qu'à moi d'être une famille, d'être un rentier, d'être riche, il faut faire un métier parce qu'il faut avoir un salaire.
Mm-hmm.
Et donc ça, c'est une condition de possibilité. Mais ça existait avant que les sociétés deviennent aussi individualistes qu'aujourd'hui. Il fallait, en quelque sorte, avoir un métier, avoir un emploi. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de réorganisation d'espace de socialisation et de vie vie qui compte. Avant, il y avait un certain équilibre, peut-être, entre la famille, le travail, les loisirs, mais c'était des sphères qui étaient plus ou moins, je ne dis pas complètement étrangères les unes aux autres, mais plus ou moins séparées.
Complémentaires, peut-être.
Complémentaires. Aujourd'hui, le travail envahit complètement notre vie privée. Ouais. Et on ne sait pas quand il faut arrêter. On ne peut pas arrêter de travailler. On ne peut pas être toujours en contact avec un certain nombre des injonctions qui viennent d'ailleurs. Donc, il n'y a plus de cloisons comme il y avait auparavant. Je ne dis pas qu'avant c'était mieux, pas du tout. Hein. Quand vous regardez la famille et comment elle fonctionnait avant et comment elle fonctionne maintenant, je préfère largement la famille d'aujourd'hui. Oui. Bon, à choisir, il n'y a pas de doute, mais les pressions auxquelles les familles sont soumises aujourd'hui sont très importantes. Si vous regardez les femmes, évidemment la place des femmes est beaucoup plus importante, intéressante aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, les femmes ne se sont pas tout à fait délestées du travail non payé. Ce sont elles qui continuent à faire plus la vaisselle, s'occuper des enfants, mais aussi doivent faire une carrière, aussi doivent travailler. Donc, ils ont accumulé un certain nombre de choses qui, avant, étaient relativement un peu, dont les poids n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus exigées, je crois, que les hommes, parce qu'ils ont plus de tâches, permet par exemple l'idée des dents naturelles. Les dents naturelles, en général, c'est les femmes.
Oui,
les dents naturelles.
Et ça s'ajoute à leur obligation d'être autonome et d'avoir un travail. Et le travail, c'est ce qui définit l'individu aujourd'hui.
Oui, si, c'est ce qui définit
l'individu. Qui es-tu?
Oui,
ça veut dire qu'est-ce que tu fais?
Absolument. Si on va dans un souper, on vous demande, et si vous dites je fais rien dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais rien.
C'est foutu.
C'est fini. Mais si vous dites je suis séparé, je suis seul, j'ai d'enfants ou pas d'enfants, c'est une couleur de plus, une nuance de plus, qui ne porte pas, ça ne vous jette pas dans la non-conformité. Si vous dites je ne travaille pas, je n'ai pas de profession, là, ça vous jette
immédiatement.
Parce que c'est une façon de dire je n'existe pas. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas une identité idéalement socio-professionnelle, si vous n'êtes pas quelqu'un par rapport au travail, vous êtes foutu.
Ouais.
L'existence sociale se décline aujourd'hui par rapport au travail, essentiellement. Tout le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais socialement parlant, c'est accessoire. Pour définir, je suis un individu moderne aujourd'hui, un vrai citoyen, il faut que je travaille.
Voilà.
Et idéalement, il faut que mon travail soit épanouissant, qu'il soit enrichissant, que je puisse me vanter de ce que je suis. Si je dis, je suis un manœuvre, point. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un manœuvre. Je suis un ouvrier non qualifié. On ne se vante pas de ça.
Non.
Il faut trouver des qualités.
Non, parce que le travail est véritablement l'identité
tout à fait.
De la personne.
Ça, c'est une façon de dire, c'est moi. Et si vous dites, moi je ne suis pas qualifié, moi je suis quelconque, ça commence mal.
Et qu'est-ce qui arrive à la personne qui n'arrive pas à être un individu ou avoir une identité convenable selon les critères de nos sociétés contemporaines?
En fait, sur le plan subjectif, elle est très malheureuse parce qu'on se sent stigmatisé, on se sent pointé du doigt et on n'est pas valorisé socialement. Et ici, je continue avec, sur le plan psychologique, il y a un rapport qui doit être fait entre, eux, par exemple, un certain type de problèmes psychiques, le fait de ne pas avoir sa place dans la société, de ne pas pouvoir fonctionner comme tout le monde, comme on devrait fonctionner, comme on nous demande de fonctionner. Quand le travail, soit parce qu'il n'a pas de qualité, soit parce qu'il n'est pas adapté à nous, soit parce qu'il est trop exigeant mais peu satisfaisant, quand tout ça me renvoie une image de moi-même qui n'est pas satisfaisante, je vais en souffrir.
Ouais.
Et vous avez parlé tout à l'heure, vous dites, bon, l'individu apparaît avec la modernité.
Oui,
mais on pourrait parler au début de la naissance de l'individu peut-être politique. Le citoyen, l'individu économique qui fait des transactions sur le marché, l'agent, l'acteur économique. Mais ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est la naissance de l'individu psychologique. Aujourd'hui, on n'est pas seulement un citoyen, un agent économique, aujourd'hui, on est en profondeur psychologique. Aujourd'hui, plus que jamais en histoire, on souffre tous psychologiquement. Et là, on est entré dans une ère où vous pouvez être un commandant de l'armée comme Roméo Dallaire, vous pouvez dire « je souffre ». Déprime, je suis triste. Vous êtes un pompier, vous exercez un métier risqué, viril, tout ce que vous voulez, et vous avez le droit de pleurer, d'exprimer sa souffrance. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de métiers qui sont étanches à ça. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Et si vous ne souffrez pas, vous êtes suspect aussi. Donc, il faut avoir cette ouverture. Mais aussi, ça nous parle d'une certaine fragilité. Aujourd'hui, on est plus, la psyché est plus exposée aux tensions de la vie courante. On est plus à fleur de peau. C'est pour ça qu'on a, pour moi, tout un langage psychologique pour expliquer tout ce qui se passe.
Pourquoi est-on plus fragile aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que le monde dans lequel on vit est plus difficile, est plus stressant, ou c'est parce que c'est nous qui avons perdu des défenses face à l'environnement? C'est une grande question.
Oui. Non, on pourrait dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, les ratios des psychologues, des thérapeutes, qui ont affaire à nos problèmes, c'est bien énormément plus grand qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les individus sont soutenus psychologiquement. Oui. Plus vous êtes un individu individué, oui, singulier, plus vous avez besoin d'un type de support singulier, particulier. C'est-à-dire, ça il y a un piège aussi, c'est-à-dire d'un part, on va nous dire, vous êtes singulier, vous avez besoin d'un support particulier, et on le fait souvent dans les écoles, c'est-à-dire...
Moi je trouve ça remarquable, à chaque fois qu'il y a un événement qui survient dans une école, voilà, que ce soit un suicide, oui, ou que ce tout soit... Tout de suite, on voit débarquer tout un ensemble de professionnels qui viennent apporter ce qu'on appelle le soutien psychologique.
Et ça, c'est nouveau.
Et ça nous étonne, parce qu'on dit, mais avant, ça n'existait pas. Pourquoi tout à coup...
Mais d'abord, il y a quelque chose qui est très particulier. Avant, je dirais, il y a jusqu'aux années 60, et si vous étiez un ouvrier...
Les familles étaient plus présentes.
Les familles étaient plus présentes, mais aussi, il y avait moins de droits. C'est-à-dire, si un ouvrier, par exemple, n'allait pas travailler, il disait, je ne pouvais pas dire que je suis déprimé.
Ah oui.
Vous êtes paresseux.
Ah oui.
Donc, les classes populaires n'avaient pas de subjectivité.
Oui.
Ce qui est quand même assez intéressant.
Oui.
Et, par exemple, des femmes hystériques, neurasthéniques, etc., c'était des femmes bourgeoises, petites bourgeoises.
Tout à fait.
Un ouvrier hystérique, ça ne marche pas.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'un ouvrier, ça...
Ça n'avait pas d'état d'âme.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est impossible de dire ça. Et même en sociologie, les sociologues les plus virils, les plus structurants marxistes, comme Pierre Bourdieu, etc., ont découvert que les classes populaires, les ouvriers, souffraient, pas du fait d'être ouvriers, c'est bon, mais souffraient parce qu'ils étaient des humains.
Des êtres humains.
Très tard. Mais cet aspect de démocratisation de la souffrance, ça vient de pair avec les sociétés où tout le monde est un individu. Alors, si tout le monde est un individu, même un col bleu qui a l'air très fort, très viril et tout ça, s'il est un individu, il doit souffrir aussi. Parce qu'il y a une subjectivité qui vient avec.
Donc la souffrance psychologique est devenue démocratique.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça que, je disais un petit peu avec un peu d'ironie, mais c'est vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un ouvrier névrosé n'existait pas. Et un ouvrier ne pouvait pas se payer un psychanalyste, de toute façon. Aujourd'hui, la souffrance est des masses. C'est-à-dire
Mais donc, si je vous comprends bien, la névrose n'est pas un symptôme d'une pathologie, c'est un symptôme d'être un être humain.
C'est un symptôme d'être un être humain socialisé dans un certain type de société, notamment dans une certaine famille. Freud lui-même, c'est lui qui incarne la notion moderne de névrose, c'est pas lui qui a inventé le mot, mais c'est lui qui lui a donné sa force, son prestige. Et c'est quand il dit, quelles sont les causes les plus larges de la névrose. D'abord, la névrose, c'est quelque chose qui frappe les normaux. Il ne frappe pas des gens particuliers, il frappe les normaux, des gens comme vous et moi. Nous pouvons être frappés, si on vivait dans une autre époque, des névroses.
Oui.
Mais des gens où, dans les familles, ont des caractéristiques très particulières, qui sont des caractéristiques de toutes les familles, mais dans lesquelles il y a une certaine fragilité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de circonstances qui se mettent en branle, mais dont les éléments de base, dont le fait que la famille, par exemple, soit oppressive, hiérarchique, où les enfants soient dominés, les femmes soient soumises au rigueur du patriarcat, etc., tout ça crée notamment des pressions, des refoulements sur la sexualité, sur les désirs, etc., qui vont se traduire parfois, et pas tout le temps, dans des symptômes. Mais si j'enlève la société, je ne peux pas comprendre ces symptômes-là. Aujourd'hui, la famille n'est pas la même et les symptômes ne sont pas les mêmes. La névrose n'a presque pas de... ça ne fait pas de sens avec la manière dont on vit. mais d'autres pathologies qui sont bien plus populaires.
Comme la dépression.
Comme la dépression. Et ça fait du sens. On sait tous qu'est-ce que ça veut dire être déprimé. On n'a pas besoin de l'expliquer.
Non.
Comme avant, on savait à peu près ce qu'est une névrose, je voulais dire. Ça fait du sens. Les succès d'une pathologie psychiatrique, c'est qu'elle fait du sens. S'il ne fait pas du sens, on peut pas. C'est là où on ne peut pas imposer n'importe quoi. En général, on peut imposer quelque chose quand on va dans les sens des changements sociaux. On ne peut pas aller à l'encontre. Donc la dépression, s'il a un succès monstre, il s'est devenu démocratique, c'est parce qu'il reflète la manière de souffrir
actuelle,
archétypale, actuelle, voilà. qui reflète les failles de l'individualité contemporaine. La dépression, c'est un peu une manière de coder de manière négative ce qu'on nous demande d'être. C'est-à-dire la dépression, c'est le négatif de l'individu contemporain. Le déprimé est fatigué, il est bloqué dans l'action, il n'est pas capable d'être à l'auteur. Il est dépendant, il ne peut pas agir. Donc c'est un arrêt de mort sociale. Si vous ne pouvez pas être performant dans notre société, vous êtes mort. Il est déprimé, c'est la mort sociale. C'est une façon de dire, vous ne fonctionnez pas.
On parlait de la bourgeoisie tout à l'heure, des dames bourgeoises qui étaient névrosées et on ne voyait pas ça chez l'ouvrier. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a le droit de se laisser aller à la neurasthénie, justement, ou à vouloir voir personne, à se renfermer chez soi et à dire « je suis triste, je ne veux voir personne, je ne vais pas travailler ». C'est interdit.
C'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'on veut notre bien. Donc la médecine, la psychiatrie, la psychologie veulent notre bien. Évidemment, le bien, ce n'est pas défini par la médecine, mais par la société. Si quelqu'un reste à la maison, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, en général, quelqu'un qui est déprimé, ce n'est pas, j'insiste sur le fait, la dépression touche les normaux, en général.
Oui, tout à fait.
Tout le monde.
Oui.
Et je ne parle pas de la psychose, de la schizophrénie, qui sont des problèmes qui touchent des proportions très minoritaires de la population. La dépression est démocratique, touche tout le monde. Alors, c'est autant dire que ça touche la population active. On ne peut pas laisser la population active, celle qui crée de la richesse et qui va travailler comme ça. Et l'une des préoccupations, je me souviens du forum de Davos de 2000 ou 2001, où on a décrété que la dépression était le cancer du 21e siècle.
Parce que c'est l'ennemi de l'économie ?
Parce que justement, ça handicape la population active. Ce n'est pas parce qu'il est humaniste. Il n'y a pas d'humaniste.
Non.
Mais, si vous regardez, je n'ai pas les chiffres exactement, mais il y a 500 000 de personnes par semaine au Canada qui s'absentent pour des raisons de santé mentale du travail.
Ouais.
C'est énorme.
C'est énorme.
Et quand vous regardez ce que c'est la santé mentale dont on parle d'abord de dépression, ensuite d'anxiété et troisièmement des problèmes de dépendance.
Ouais.
Donc tout ça lié à une sorte de malaise psychologique, psychosocial, ouais, etc. Alors on ne peut pas laisser en tant que société, pour toutes sortes de raisons, pas pour des raisons humanistes, pas laisser les gens chez eux. Il faut aller les chercher. Et quand vous regardez, quand on vous donne un congé médical, par exemple, vous avez un diagnostic de dépression, vous ne pouvez pas dire « Ah, je vais me guérir avec, me traiter avec mon psychologue, ça va prendre du temps. » Non. Il y a un traitement de choix, ça s'appelle l'antidépresseur. Vous allez prendre ça, sinon vos assurances ne vont pas couvrir vos salaires. Donc vous n'avez pas le choix de faire, pas seulement de déprimer et d'être classé dans les diagnostics qui existe, mais aussi vous allez prendre ce qu'on vous dit de prendre.
Mais si le travail rend heureux, comme on nous dit que le travail permet de devenir un individu, d'explorer son identité, pourquoi les gens... pourquoi ça ne fonctionne pas?
Ben, ça ne fonctionne pas parce que la vie, en général, ne fonctionne pas toujours. Est-ce qu'on est toujours heureux quand on se marie, quand on a des enfants, quand on a des amis? Il faut deux choses. D'abord, arrêter de demander à la société que tout fonctionne.
Mais le modèle, il n'est pas mauvais. C'est le fait de ne pas accepter qu'il y a des gens qui ne se conforment, qui ne sont pas bien dans le modèle.
Et ça, on ne l'a jamais accepté. C'est-à-dire, c'est ça, à la fois la force et la misère de la normativité. C'est-à-dire, on vous dit, faites ce que vous voulez, mais dans les faits, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
Ouais.
Donc, vous êtes assujetti à une double contrainte, comme on disait autrefois, un double bind. C'est-à-dire, d'un côté, on vous dit, allez par là, et de l'autre côté, non, tu vas aller par là plutôt.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on conclue sur la manière dont le système se défend, dans le sens où le système exige donc de l'individu d'être actif, d'être fonctionnel et d'être autonome. Et là où je veux en venir, c'est à la puissance de la médecine et de tout le corps médical qui sont des intervenants pour obliger l'individu à redevenir fonctionnel. Mm-hmm.
En Occident, c'est un très long
cheminement,
parce que la médecine a toujours depuis le XVIIe siècle, occupé une place et un prestige énorme. Pour penser aux hygiénistes au XIXe siècle, qui s'occupaient des ouvriers, par exemple, des questions de salubrité, des questions de santé, et ils le faisaient pour les biens des ouvriers. Ils voulaient que les ouvriers aient des habitudes de vie comme tout le monde, qu'ils puissent justement habiter en ville et vivre plus longtemps et plus heureux, etc. etc. Donc on ne peut pas être contre ça. C'est ça où tout devient compliqué. Est-ce que quelqu'un peut être contre le fait qu'on guérisse quelqu'un qui est en dépression?
Non.
Quelqu'un est contre quelqu'un qui fait quelque chose pour que quelqu'un retourne au travail, ou que quelqu'un puisse continuer à s'occuper de ses enfants, de sa maison. On ne peut pas être contre ça.
Ouais.
Là où on peut discuter, c'est la manière dont on le fait et le rythme dans lequel on le fait. Et là où on fait des fois en tant que société, c'est de ne pas se poser la question, comme vous le dites, pourquoi ça arrive? Pourquoi le travail qui ça devrait être épanouissant, pourquoi ce n'est pas toujours le cas?
Ouais.
Et là, c'est où je forme votre question, la manière dont on travaille, la quantité de travail, le manque de limites ou de bornes ou de balises au travail. À un moment donné, il faut arrêter de travailler et faire autre chose. On ne peut pas définir tout dans un être humain par le travail. Donc il faut rébaliser tout ça de manière intelligente, si possible, pour profiter encore mieux.
D'autant plus que le travail devient de plus en plus rare.
D'autant plus que...
C'est un problème important en Europe en ce moment.
Oui.
Mais on va voir venir ça ici. Le taux de chômage augmente.
Et
on fait quoi avec ces individus-là qu'on rejette?
Quand on voit ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire on les laisse dehors, on les pousse dans les banlieues, on crée un autre problème.
Oui.
On crée des problèmes. Mais la seule façon de régler ça, c'est de réfléchir sur pourquoi certaines méthodes d'intervention ne fonctionnent pas, et au lieu de s'obstiner à continuer et aller de l'avant, faire quelque chose. Je vous donne un exemple très simple. Au Québec, au Canada, on prend les premiers médicaments délivrés en pharmacie, ce sont les antidépresseurs.
Oui.
Au Québec, c'est les deuxièmes médicaments délivrés en pharmacie en importance. On ne peut pas dire qu'on ne prend pas les antidépresseurs. On fait quelque chose, on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais la dépression augmente, continue, soit stagne, soit la prévalence augmente. Donc il y a quelqu'un qui se trompe. C'est-à-dire, soit les médicaments, ça ne fonctionne pas à l'échelle sociale, il faut penser à autre chose qui ne fonctionne pas bien, ou on met sûrement la dépression, mais il y a un problème. C'est-à-dire, les méthodes qui sont en place, médicales, ne fonctionnent pas à l'échelle sociale. Et on continue à faire tout comme s'il fonctionnait. Et on le fait de manière tout à fait irrationnelle.
C'est que les médicaments atténuent les symptômes, mais ne guérissent pas la dépression.
Et il faut s'attaquer au problème.
Au problème.
Par exemple, avec la névrose est disparue, pas parce qu'il y avait un psychanalyste par personne, c'est parce que la famille, qui était un étouffoir, et une source de problèmes, a changé.
Voilà.
Alors, il faut changer l'environnement du travail. Et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup moins de dépression et on va avoir des vies un peu plus vivables.
Alors, il va falloir qu'on s'arrête là-dessus. Monsieur Marcelo Otero, merci beaucoup.
Mais merci à vous, c'était
de m'avoir accordé tout ce temps. On aurait pu parler encore longtemps. Merci.
On reviendra une autre fois. Merci. Ben, voilà.
Excusez-nous pour les dernières petites phrases. Donc, c'était Monsieur Marcelo Otero de l'UQAM. On est maintenant en compagnie de David. Bonsoir, David.
Bonsoir, Catherine. Tu vas bien?
Je vais très bien. Et c'est l'heure de nos citations habituelles. David nous prépare toujours des citations en relation avec les sujets du mois. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir?
Eh bien, j'en ai deux petites ce soir. Une pour Dominique. C'était une citation de Kundera tirée de L'insoutenable légèreté de l'être que tout le monde a lu déjà.
Oui.
Alors, vous serez en terrain connu. Donc, avant de disparaître totalement du monde, la beauté existera encore quelques instants, mais par erreur. La beauté par erreur, c'est le dernier stade de l'histoire de la beauté.
Oh.
C'est très beau.
Oui.
Alors, Non, bon, peu importe les commentaires. Alors, pour la prochaine, c'est pour votre prochain invité, Catherine.
Mon prochain invité, Patrick, on va revenir sur la question des Jeux olympiques, comme je vous l'ai promis en début d'émission.
Exact. Alors, la citation va comme suit. C'est une citation de Laurent Ruquier. Malheureusement, je cite Laurent, mais quand même, voilà.
Oui, moi, je ne connais pas Laurent Ruquier. Pourquoi?
Bon.
Ah,
ouvrez la télé, vous verrez.
OK.
Mais en tout cas, chacun ses goûts. Mais il a dit quand même une petite phrase très drôle qui va comme suit. Quand les prochains Jeux olympiques d'hiver auront lieu à Tahiti, on pourra donner une médaille d'or, à Antonio Samaranch. Antonio Samaranch aussi, mieux connu sous le pseudonyme de Antonio Samaranch, qui était le président, lui, des Jeux olympiques sous Franco, un beau titre, et qui est devenu ensuite président du CIO. Et qui fermait souvent les yeux sur les problèmes de dopage, acceptait les pots de vin. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on doit les Jeux olympiques à Sochi cette année.
Oh,
mais il est mort en 2010, mais oui, il a usé de ses contacts pour que ça se passe à Sochi, ville où il n'y a pas de neige.
Voilà. Merci, David. ça introduit très, très bien notre prochain invité. On va faire une pause musicale. On va écouter « Viré Blues » de Galaxy.
Quand un
Durant les Jeux olympiques de Sochi, parmi tous les charmants reportages sur les jeunes athlètes qui remportaient de belles médailles, il y a une question qui est revenue quand même assez relativement souvent. Le Comité international olympique doit-il se préoccuper des questions politiques ou des questions des droits de l'homme? Certains pensent que oui, certains pensent que non. Mais quelle est la véritable mission du Comité international olympique et respecte-t-il sa mission? Alors, on va accueillir Patrick. Bonjour, Patrick.
Bonjour.
Tu vas nous aider à faire la lumière donc sur tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord le projet initial de Pierre de Coubertin et sa mission?
Bien, il faut comprendre que Pierre de Coubertin a fait renaître les Olympiques à la fin du 19e siècle. Il y avait l'idée générale, en fait, que les Jeux avaient pour fonction de promouvoir la paix internationale par le sport. Mm-hmm. Il avait aussi la volonté de départ, voulait aussi que les Jeux olympiques soient un espace qui favorise les échanges entre les pays, autant sur le plan culturel qu'économique. Mm-hmm. D'ailleurs, on peut relever certains aspects qui sont inscrits dans la charte du Comité international olympique. On y lit, entre autres, que son rôle est de coopérer avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes aux fins de mettre le sport au service de l'humanité et de promouvoir ainsi la paix.
Okay.
On peut y lire aussi que son rôle est de mettre en œuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, ou encore d'encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d'environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d'exiger que les Jeux olympiques soient organisés en conséquence. Okay. On peut particulièrement se rendre compte que la réalité va diverger un peu de les grands principes.
Le respect de l'environnement, on sait très bien que dans la préparation des Jeux à Sochi, là, il y a eu quelques écarts. Là.
Exactement, oui. Particulièrement par le fait qu'il n'y avait aucune installation de fait, dont on est parti de zéro. Donc, c'est des coûts environnementaux incroyables. Oui. Comparativement, par exemple, à Salzbourg, qui était en Autriche, qui, lui, avait presque toutes les installations de prêtes pour les Olympiques. Donc, ça aurait été un coût environnemental beaucoup moins important. En fait.
Sochi était une région aussi relativement chaude?
Sochi, en fait, c'est ce qui est paradoxal, en fait, parce que c'est la seule région où il n'y a pas de neige de toute la Russie.
C'est assez incroyable, quand même.
C'est assez incroyable de voir faire les Jeux olympiques-là. Mais il y a toute une volonté derrière ça, en fait, de vouloir... il y a toute une volonté de... En fait, Sochi, c'est une station balnéaire.
Oui.
Sans la légitimité des Olympiques, sans les Olympiques qui étaient exercés à Sochi, finalement, il n'y aurait pas eu la légitimité pour transformer, en fait, le lieu de Sochi en belle station. On sait que là, les grandes corporations, les grandes compagnies hôtelières vont arriver pour venir s'installer. Ça n'aurait pas pu...
Mais j'aimerais ça qu'on revienne plus tard peut-être au cas spécifique de Sochi et qu'on plutôt s'arrête à la mission du CIO véritablement. Donc, quelle est sa fonction, le CIO?
Il faut comprendre que le CIO, en fait, c'est une organisation qui a un statut particulier, en fait.
Oui.
Faut comprendre, en fait, que c'est une organisation de droit public, mais aussi, c'est une ONG, en fait, mais qui a...
Il a le statut d'ONG?
Il a le statut d'ONG. C'est comme ça qu'ils l'inscrivent dans la charte, finalement. Okay. Mais son rôle n'est pas juste d'influer sur les pratiques sociales, par exemple, à titre d'ONG, mais aussi dans le choix des villes, par exemple, ou dans le choix des athlètes, dans le choix dans la section des sports, il y a tout un pan qui est plus relatif à une organisation de droit public, finalement, comme l'Organisation mondiale de la santé ou le FMI, par exemple, ou le CDE.
Et quand on parle d'une organisation de droit public, de quoi parle-t-on exactement?
De droit public, finalement, ça va être plus comme... finalement, en fait, une organisation de droit public, ça va être une organisation qui va davantage... servir de son argent pour faire des œuvres à travers le monde, finalement.
OK.
Par exemple, je sais que pour les Olympiques, pour le Comité olympique, ils ont un organisme qui envoie des anciens Olympiens, finalement, sur le terrain. Ils investissent beaucoup d'argent par rapport avec l'UNICEF, par exemple, avec l'UNESCO, qui travaille en partenariat avec eux.
Okay. Ils sont en lien avec d'autres ONG qui ont des missions mondiales,
internationales.
Exactement.
Fait qu'ils ont un rôle de régulation avec ces organisations-là, finalement, pour surtout sur un plan environnemental, mais aussi sur un plan humanitaire, finalement.
Oui. Parce qu'il faut aussi qu'ils fassent respecter les droits de l'homme, la paix dans le monde. Il y a plusieurs missions.
C'est ça, il y a une longue liste de missions, mais en même temps, si on peut se rendre compte finalement que c'est surtout avec le respect, à travers la pratique du sport, avec la promotion du sport qu'on fait l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. On fait la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des rapports à l'argent? Quel est le rapport à l'argent qu'a le CIO avec les grandes...
Oui, bien, en ce qui
le
concerne...
Le capitalisme.
Oui, bien, il y a quelque chose dans la charte qui est inscrit. En ce qui concerne l'utilisation, on ne peut pas utiliser de façon abusive l'utilisation commerciale, dans le fond, du sport et des athlètes. Je pense que, tu sais, j'apprends rien à personne si je dis que les commanditaires sont très importants dans l'équation aujourd'hui pour assurer la solvabilité des jeux. On voit, par exemple, les bandes des arénas ou des stades sont remplies de publicité. C'est sans compter les athlètes qui vont afficher le logo de leur commanditaire lors des apparitions à la télé. Par exemple, on pense au patineur de vitesse Charles Hamelin qui portait fièrement sa casquette Red Bull. Il y a un impératif, en fait, de servir, de faire la promotion des commanditaires.
Donc,
en fait,
tout est dans la définition du mot abusive, là.
Exactement.
Quelle est l'utilisation quand ça devient abusif?
Exactement. On peut se demander c'est qu'est-ce qu'une utilisation abusive, mais tu sais, c'est bien sûr que pour moi, par exemple, pour bien d'autres, ça peut sembler abusif, mais il faut croire que pour le comité olympique et pour les Olympiques, ça ne l'est pas, finalement. Ouais.
Et si ce que je me souviens bien, mais à Londres, on avait confié à une grande marque d'alimentation tout l'ensemble de la restauration du site olympique à une seule. Je pense que c'était McDonald's.
Ça se peut très bien, en fait.
Donc, c'est des accords commerciaux, là, assez importants, là.
Totalement, oui, c'est ça. Puis c'est beaucoup l'argent qui mène le monde aujourd'hui par rapport aux Olympiques, surtout, en fait. C'est surtout depuis les années 90, en fait, qu'il y a eu le virage avec les Olympiques, avec les droits de télévision, finalement. C'est là que c'est devenu une grande machine, finalement.
Dans quelle décennie?
En 1990.
En 1990?
Les années 90, oui, sont vraiment le début où c'est que...
Les grands contrats de télédiffusion, là, avec les...
Oui, exactement.
Oui,
c'est là que le virage qu'il y a eu vraiment une séparation entre les grands principes olympiques et virage vers plus une grande organisation qui est là pour finalement apporter des profits.
Et comment on a pu comment on peut voir ça c'est tout à coup cette
cet
écart-là avec la mission de base?
Je pense qu'il y a rien qui arrive pour rien finalement dans le monde. Quand il y a une culture qui se fait, une nouvelle culture qui prend la place, les associations, les organisations qui sont à l'intérieur se transforment elles aussi selon cette nouvelle logique-là. Donc, aujourd'hui, on peut dire que finalement, avec le capitalisme, on est dans une ère qui est plus néolibérale, disons, depuis les années 80. Donc, on peut pas... les Olympiques ne s'excluent pas de cette nouvelle logique-là, finalement. Donc, rentrent dans une logique de capital puis de financiarisation aussi.
Mais à partir du moment où le CIO devient une espèce de promoteur d'événements sportifs comme n'importe quel autre, comme Gestev, ici à Québec, qui organise le Red Bull Crash Stars, de quelle manière il devient légitimé au niveau international?
Bien, il devient légitimé au niveau international parce que c'est une grosse machine, en fait, qui... avec les codes de télévision, par exemple, il y a beaucoup de gens qui regardent les Olympiques. Il y a beaucoup de gens qui sont... c'est la démocratie de ceux, finalement, qui regardent les Olympiques puis qui attendent impatiemment aux 2 ans, aux 4 ans d'avoir les Olympiques. Donc, il y a tout l'impératif de voir... Puis c'est tout le côté lobbyiste aussi derrière ça. Comme par exemple, pour les Jeux de Sochi... comme je vous disais tantôt, il n'y avait aucunement les installations pour présenter les Jeux de Sochi, sauf que le président Poutine a fait beaucoup de lobby, beaucoup de PR, finalement, beaucoup de voyages, il a passé beaucoup d'argent avant même que les Olympiques commencent, juste pour avoir les Olympiques dans leur ville. Puis c'est prestigieux d'avoir les Olympiques dans sa ville. Donc,
autrement dit, aujourd'hui, les pays achètent le CIO pour obtenir... peut-être que j'exagère en disant ça.
Je ne sais pas
là,
si on peut dire qu'ils achètent, mais disons que c'est quand même... beaucoup l'argent qui est derrière ça. Puis c'est le prestige, finalement. On le dit, on l'a vu par rapport à Sochi. Poutine était partout, puis c'est la gloire des Jeux de la Russie. C'est le retour de la Russie en force.
Il y a certainement du lobbying qui se fait politique. On se demande effectivement comment c'est-il que ça ne s'est pas eu lieu en Autriche. Tu parlais de l'Autriche tout à l'heure. C'est un pays qui avait fait sa candidature.
Mais il avait fait sa candidature, en fait, pour les Jeux de 2014, les Jeux d'hiver de 2014. Puis ils n'ont pas été acceptés. Mais déjà là... juste le fait que le président Poutine se rende, je pense que c'était en Argentine, où c'est qu'il y avait eu où c'est qu'il avait décidé c'était où les villes, il avait fait une allocution, puis il avait séduit la foule. Déjà là, la madame qui parlait par rapport à l'Autriche, elle savait que c'était joué, finalement, parce que Poutine avait réussi à avoir
à
un
convaincre.
Ascendant, c'est ça, sur les gens du CIO et sur ceux qui choisissent.
Maintenant, pour ce qui est de la politique, parce qu'en fait, c'est surtout de cet aspect-là dont on voudrait parler, est-ce que véritablement le CIO doit avoir une éthique politique?
Bien, le CIO, en fait, ne font pas de politique eux-mêmes. Le CIO a dans sa charte un aspect qui dit qu'elle ne doit pas se mêler
de questions politiques.
Elle ne doit pas se mêler de questions politiques. Elle doit juste, finalement, montrer leur neutralité à travers le déploiement des Jeux olympiques. Comme par exemple, on l'a vu, la seule manière qu'eux-mêmes ils ont fait de la politique, d'une certaine façon, c'est par les Jeux ils ont réussi à faire jouer sur le même drapeau les deux Corées, finalement. Ont réussi à faire la même chose aussi avec l'Allemagne à l'époque qu'elle était désunie.
OK. Donc, ils ont réussi à unir des États.
Oui, fait que dans ce sens-là, c'est la seule manière, finalement...
Il y a une mission de paix, là.
Oui, qui font de la politique. Sinon aussi, si les Jeux d'Helsinki ont été choisis en 1952, c'est justement parce que c'était un pays qui était considéré comme neutre vis-à-vis de la guerre froide. Mm-hmm. Donc, encore là, on voit que... si la manière qu'ils s'inscrivent sur la scène politique, c'est pour ne pas faire de politique, finalement.
Oui.
Sinon, mais par exemple...
Oui. D'où c'est cette phrase-là qu'on entend très souvent des organisateurs de M. Marcel Aubut, ici, du Comité olympique canadien, qui dit, bien, on n'est pas là pour faire de la politique.
Oui, exactement. Il y avait même Éric Duhaime, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui nous disait, pouvez-vous nous sacrer patience pendant les Olympiques, puis... En le fond, on se rend compte que la politique est toujours présente. On fait juste penser, par exemple, à Québec solidaire qui a réussi à faire voter une motion pour que le drapeau gay soit soulevé en haut de l'Assemblée nationale pendant la durée des Jeux olympiques. Pour se dénoncer, finalement, les politiques à l'égard des homosexuels.
Mais d'ailleurs, historiquement, les Jeux olympiques ont toujours été une plateforme extraordinaire pour, justement, promouvoir des causes...
Oui, exactement. On fait juste penser, par exemple, aux Jeux de 1980 ou aux Jeux de 1984, où chacun de leur côté, l'Occident d'un bord, les États-Unis, entre autres, ont boycotté les Jeux de Moscou. Et à l'inverse, les Jeux de Los Angeles ont été boycottés par les pays soviétiques, par exemple. Donc, on voit que les pays, eux, instrumentalisent les Olympiques totalement, en fait.
Oui.
Ils s'en servent constamment pour passer... Tous les dirigeants s'en servent pour passer le message parce qu'ils savent qu'ils vont se faire écouter pendant... Ils ont une tribune, finalement.
Mais ça ne s'est pas beaucoup fait aux Jeux de Sochi. Il n'y a pas grand personne qui ont boycotté ou qui ont fait valoir des causes. Bon, il y a eu la cause des homosexuels dont on a entendu parler peu. Mais à Sochi même, il ne s'est rien passé, là.
À Sochi même, il ne s'est rien passé, sinon qu'à vers la fin, avec le cas de l'Ukraine, finalement. Parce qu'il y a des... Après les premières manifestations qu'il y a eu pendant les Olympiques, donc il y a eu un non-respect de la trêve olympique de la part du conflit en Ukraine, à cause du conflit en Ukraine, les athlètes ukrainiens, eux, voulaient porter un drapeau, un dossard noir pour manifester, pour protester, pour être solidaires finalement avec ce qui se passait dans leur pays. Et le Comité olympique, au nom de la Charte olympique, a dit « on n'accepte pas ça, nous, on ne rentre pas dans ces guerres politiques-là finalement ». Mais c'est le seul incident, oui, c'est vrai, qu'il y a eu, ou c'est qu'on peut dire qu'il a été politisé pendant les Olympiques, mais il a été refusé, finalement. Mais là, par exemple, les Jeux paralympiques qu'il va avoir deux semaines, là, je pense que Londres a manifesté peut-être bien l'idée de ne pas se présenter, puis je pense que le Canada aussi réfléchit à ça, pour ne pas se présenter là-bas, pour protester contre ce qui se passe présentement en Ukraine.
Il faudrait qu'on termine dans à peu près une minute.
Okay.
J'ai vu que dans la charte du CIO, ils disent qu'il faut qu'il y ait un héritage positif des Jeux pour les villes hautes, et je ne vois pas comment à Sochi va avoir un héritage positif de ces infrastructures-là.
Je ne vois pas comment non plus ils vont réussir à avoir un héritage positif parce qu'il a fallu construire les installations de A à Z, en fait. Donc, ça va tomber un coût environnemental incroyable. Il faut comprendre que le site des arénas est fait sur du terrain marécageux qui était un milieu de vie pour une diversité incroyable d'espèces animales. Tout ça a été saccagé pour la gloire des Jeux. Il faut comprendre que Sochi est dans la seule région, comme je disais tantôt, qui est dans un climat subtropical. Donc, c'est la seule région aussi qui aura pas, qui avait pas de neige. Donc, déjà là, juste faire ça, c'est incroyable. Ils ont détruit de nombreuses routes. Il y a beaucoup de gens qui sont ramassés à la rue, finalement, sans rien.
Ah oui,
rien.
Ça a été...
Donc, l'impact pour le futur, je pense qu'il ne sera pas très rose pour cette région-là. Pour les habitants, en fait, parce que le Sochi va devenir une grande région touristique, finalement, mais les gens qui y restent là, eux, vont se ramasser avec rien.
De toute manière, c'est le futur qui nous le dira.
Exactement.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci.
Alors, c'est le moment d'une prestation en direct. On a parfois la chance d'accueillir des artistes en studio. On en a un ce soir. On a Pico. Bonsoir, Pico.
Bonsoir.
Tu donnes un spectacle prochainement à la librairie?
Oui, j'ai très hâte d'ailleurs. Pratiquer toute la journée.
Oui, c'est quelle date?
C'est le 8 mars, c'est samedi prochain, dans le fond. C'est samedi soir.
C'est samedi qui vient.
C'est samedi, le prochain samedi, là.
Bon, mais écoute, tu vas nous faire une pièce musicale, puis on va reparler ensemble un petit peu après du spectacle. Tu nous fais quelle pièce?
Je vais vous faire La Prune, qui est une chanson inédite, qui est quand même assez récente et neuve. Elle sent le papier encore.
Alors, on l'écoute.
Deux personnes sont semblables, la pomme tombe près de l'arbre, je présume que je suis une prune tombée loin du pommier. Mon père est blond, ma mère est blonde, mon frère aussi est blond, moi je suis brune. Je suis une prune tombée loin du pommier. Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas comme les autres, comme les autres. Toutes mes sœurs sont bonnes dans les sports, moi je pratique l'or, je suis dans la lune. Je suis une prune tombée loin du pommier. Toutes mes frères font dans la magouille, toutes mes frères ont trois couilles, moi je n'en ai qu'une. Je suis une prune tombée loin du pommier. Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas comme les autres, comme les autres. Une pomme par jour donne la santé, je donne la régularité, quelle infortune. Je suis une prune tombée loin du pommier. Quand toute ma famille de malades meurt d'une maladie auto-immune, moi je survis. Car je suis une prune tombée loin du pommier. Ah, une prune qui n'a pas hérité. Je suis dans la lune, loin de mon pommier. Ah, une prune tombée loin du
Merci beaucoup, Pico. On a beaucoup de compassion pour la prune brune qui est tombée loin du pommier.
Pauvre petite fille. Hein?
Oui, c'est pas drôle. Pico, je sais que tu es un auteur, compositeur, interprète très prolifique. Tu écris beaucoup?
Moi, ouais, j'écris quand même pas mal.
Parce que ça fait plusieurs spectacles que tu viens faire à la librairie et puis tu as toujours des nouvelles chansons.
Bien là, le prochain, il va en avoir pas mal.
Ah oui?
Oui. Là, dans le fond, je viens faire un spectacle à la librairie justement parce que ici, quand je joue à la librairie, je me sens en famille.
Oui.
Et puis là, j'ai pas mal de... Ben, faut dire en partant que moi, je suis en production d'album pour un album avec le Pico Larouche Rocheband.
Ah ben ça, c'est important de le dire en effet.
Oui, c'est ça. Fait que là, je rentre en studio demain.
Okay.
Après-demain. Après-demain, je rentre en studio pour les voix. Fait que là, on a fait toutes les guitares, les drums, les guitares, les basses. Là, il nous reste à faire les voix, évidemment. Et puis là, je suis en production d'album. Fait que là, c'est un peu bizarre de dire ça. Là, je vais vous jouer les chansons du deuxième album.
OK, là, non je pas rentre... de celui que tu as enregistré.
Non,
c'est
ça.
Là.
Celui que j'enregistre, c'est le... Ben, je reviens, tu disais, t'es un auteur prolifique, mais là, moi, je t'en... Le... quand t'es un auteur-compositeur, tu... dans le fond, tu vas buzzer des affaires dans ta tête, tu vas inventer des pièces, tu vas... présenter ça aux gars, là, les gars, il faut qu'on réussisse à se rencontrer tous ensemble, qu'on fasse des partitions, qu'on peaufine les arrangements aussi. C'est vraiment un travail à peaufiner tous les arrangements aussi. Tu sais, vraiment réussir là, à prendre une chanson et que les quatre ensemble, on réussisse à partir du silence, puis amener une œuvre, ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors non. Que nous autres, les auteurs-compositeurs, dès qu'on pense à une idée, elle est déjà faite. Ouais. Ça va à 100 000 à l'heure entre les deux oreilles. Donc là, c'est sûr que moi, comme ma job d'auteur, c'est aussi d'aider les gars à apprendre leur truc, peaufiner des projets, puis amener des projets à terme, comme le projet d'album numéro 1. Mais je peux pas non plus taire ma création qui, elle, continue.
Se poursuit.
Fait que je suis en train de composer le deuxième album et puis là je viens tester les c'est pas grave si c'est pas justement
fine touch
là, j'ose pas dire d'anglicisme puis on est dans un haut lieu de la francophonie mesdames et messieurs. Alors là j'ose pas dire d'anglicisme mais c'est pas fine touch encore. Fait que là je viens de l'essayer en famille plein de nouvelles chansons, ça va quasiment rien qu'avec du nouveau matériel.
Ben merci beaucoup, Pico. S'il y en a qui veulent venir tester les chansons de Pico samedi à la librairie Saint-Jean-Baptiste,
ouais, 565. Puis là, dernière chose à dire, je suis un homme orchestre aussi. Là. Je me suis fait une flûte qui s'appelle le didgeridoo de Pan. Fait que là, c'est une espèce de flûte de Pan géante qui est large de même. Là,
de
pour
même,
la
ça
radio,
veut dire deux pieds. Là.
Un deux pieds à peu près, avec plein de didgeridoo. J'ai un bass drum au pied, un shaker dans l'autre pied, puis la guitare aussi. Puis j'étais en première partie, c'est Harry Co. Qui est Olivier Larouche, un de mes bons amis.
On
fait un show de Larouche, finalement.
Ben oui, c'est de la famille.
Non, mais les Larouches, tu sais, c'est large. Hein. Moi, je suis Larouche. Mon père, c'est un Larouche, ma mère, c'est une Larouche. Fait que,
ah bon?
C'est large, les Larouches. Puis lui, j'imagine, il y a deux Larouches aussi, puis on se connaît pas. Fait que, il y en a beaucoup, des Larouches.
Ben merci beaucoup, Pico. On invite tout le monde à être là, donc samedi, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, 565 rue Saint-Jean. Je vous dis bonsoir. Je pense que je suis en train de dépasser mon temps. Merci à mes invités, Dominique Morin, Edmé Étienne, Marcello Otero, Patrick Desbiens et Pico Larouche. Merci à mon équipe, David, Anaël et Big Nick. C'était La Voix de la librairie Québec.